Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
I hate the thought of being so far away from you, but we'll be together again someday.
Crooked road, lots of things I never know, and because of me not knowing, now I find trouble got in the trail, spent the next 5 years in jail, should have read.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties vidéo en matière de films noirs. Nous reviendrons sur trois films édités par Elephant Film. Détour d'Edgar J. Ulmer, Dans l'ombre de San Francisco de Norman Foster, et La police était au rendez-vous de Joseph Pevney. Nous évoquerons également deux sorties Rimini édition, à savoir La ville captive de Robert Wise et Le tueur s'est évadé de Bud Boetticher. Et enfin, nous terminerons avec un film noir moderne, un film de 1992, qui s'appelle Sable mortel et qui est signé Roger Donaldson et qui est disponible chez ESC. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet, Jérémy Coiffman, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. À mes côtés pour causer film noir, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également instigateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roulant, dit le loup-garou Picard, c'est son surnom de détective privé, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac-chef. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien et salut à toutes.
Petit flashback Thomas, on est en 1945, on est aux États-Unis. Edgar J. Ulmer, grand maître du film noir, a décidé, mon cher Thomas, de nous raconter l'histoire dans ce film qui est édité par Elephant Film, du personnage du film noir tel que le décrivait Courson et Tavernier, du personnage de film noir le plus malchanceux de toute l'histoire du film noir. Je veux bien sûr parler de Hal Roberts, un pianiste de bar new-yorkais qui va se retrouver embarqué dans quelque chose quand même d'assez incroyable.
Oui, Hal Roberts, donc, comme tu l'as dit, c'est un pianiste d'un petit club de jazz à New York. Et la chanteuse de ce club de jazz, en fait, c'est sa petite amie. Hein, ils ont une idylle ensemble. Jusqu'au jour où elle décide d'aller faire carrière à Los Angeles, sur la côte ouest, en le laissant, lui, en plan à New York. Et mais un jour, il en a marre. Hein, bon, il s'appelle. Hein, puis en fait, il se rend compte qu'elle n'a pas du tout percé, qu'elle est serveuse dans un bar, etc. Puis il décide, parce qu'elle lui manque, hein, il décide d'aller la rejoindre à Los Angeles. Alors il prend la route. Bon, il est fauché. Hein, il est fauché. Alors il décide de prendre la route et de faire du stop. Et il y a un mec qui le prend en stop. Et il sympathise. C'est un mec qui a du pognon. Hein, qui n'a pas l'air très clair, hein, qui n'a pas l'air très net. Hein. Il a du pognon, il lui paye des coups, il s'arrête dans les drive-in pour manger ensemble, etc. Enfin, le mec très pote, très affable, hein, comme ça. Jusqu'au jour où, un jour de pluie, c'était Al Roberts qui conduit la bagnole. Et il décide de mettre la capote pendant que l'autre, son pote, en fait, il est assoupi. Enfin, le croit-il. Il est assoupi, il essaie de le réveiller, il ouvre la portière. Là, le mec, il tombe et pouf, le crâne se compte une pierre. Il n'a vraiment pas de bol, Al Roberts. Hein, ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, bien sûr, il prend la mauvaise décision. C'est de planquer le corps et de prendre l'identité de cet homme qu'il a pris en stop. Un jour, donc, il prend sur sa route, en ayant repris l'identité et la voiture de Haskell, qu'il avait pris en stop, il prend une jeune femme en stop et puis il décline son identité. En fait, cette jeune femme, c'était une jeune femme qu'Haskell avait pris en stop avant de prendre Al Roberts en stop. Et donc, à partir de là, Al Roberts, le poissard, ne va pas pouvoir s'en sortir. Et ça va être un enchaînement d'événements qui vont le mener à sa perte. Donc on est dans une un peu plutôt dans une relecture du film noir, hein, Edgar G. Ulmer, c'est un petit maître, hein, c'est un cinéaste qui faisait des films vraiment fauchés en général, c'est un cinéaste qui vient d'Autriche, hein, d'Europe, et qui dit avoir travaillé avec Fritz Lang, avec Robert Siodmak, enfin avec des grands, quoi. Et il a surtout fait travailler sur des décors, sur des films. Il dit qu'il avait même travaillé avec Murnau sur Le Dernier des Hommes, etc. Et par contre, ce qui se voit dans son film, c'est effectivement son appétence pour les décors. Il y a toute une séquence au début où il discute avec sa dulcinée dans les rues de New York. En fait, comme le film est complètement fauché, Ulmer, ce qu'il fait, c'est qu'il met de la brume. On a l'impression d'être dans un film anglais, à Londres, dans un Londres brumeux. Enfin, c'est assez poétique quelque part. Hein. Et en fait, ce film noir détourne les codes du film noir parce que c'est entre le film noir et le road movie, hein, quelque part. Hein. Ce personnage, il va aller jusqu'à Los Angeles. Bon, il ne va pas pouvoir se dépêtrer de cette femme fatale qui est plus une furie qu'une femme fatale parce que... elle est pas belle, elle est vulgaire, elle l'engueule, elle est...
Alors, je suis plus mesuré que toi sur ce personnage d'Anne Savage, personnage génial, je pense. Ouais. Bon, les spécialistes s'accordent à dire que c'est son meilleur rôle au cinéma. Ouais. Elle peut être belle, c'est-à-dire qu'il y a des moments, elle a un côté où elle est belle, il y a des moments où des côtés elle est vulgaire, bon c'est voulu pour le personnage, il y a des moments où elle est presque touchante, et il y a des moments où elle est littéralement effrayante, comme une vieille sorcière. C'est une sacrée composition d'actrice quand même. Hein.
C'est un petit film, hein, fait un peu plus d'une heure, quoi. Mais c'est un petit film très efficace et qui regorge de petites idées. Alors, il y a une scène de meurtre qui est quand même dont on se souvient quand on voit le film, hein, avec un téléphone, qui est impossible aujourd'hui, hein, vu que maintenant on a tous des mobiles. Donc, c'est un petit film très efficace que je recommande vivement.
Oui, c'est une production PRC. Alors, on est à une époque, c'est la grande époque, hein, le film noir, c'est l'an 44, il y a eu Assurance sur la mort, par exemple. Il y a eu le film de Preminger, Laura. On est dans la grande époque. Et évidemment, les petites boîtes comme PRC, donc Producer Releasing Corporation, vont se lancer à corps perdu dans des productions à petit budget qui vont être des films noirs, destinés à être des compléments de programme ou à passer dans les salles, on va dire, plus des états plus provinciaux, voilà. Et Edgar G. Ulmer, comme tu l'as rappelé, Thomas, je ne sais pas exactement s'il a effectivement fait tout ce qu'il dit, est-ce qu'il a vraiment effectivement travaillé avec les plus grands et tout. Le fait est quand même, moi je pense que oui, parce que il a quand même... c'est un film qui a coûté 3 $ 6 cents et il démontre un savoir-faire incroyable. Parce qu'en fin de compte, le film ne raconte pas énormément de choses. Et c'est la mise en scène qui fait tout le travail. Donc c'est quand même un sacré metteur en scène. La manière dont il y a des idées, des super idées de mise en scène. La manière dont il utilise les fils télégraphiques pour les conversations entre Al et Shirley. Sa dulcinée. Et puis le fil télégraphique. Hein, c'est la fil téléphonique qui va être l'arme du crime. Le plan final aussi, qui est très particulier qui part d'un détail pour arriver voilà, au plan du Deus Ex Machina. C'est quand même, je trouve, un film incroyablement maîtrisé, très très sombre. C'est un film, c'est pas un film de fin du monde, c'est la fin d'un monde, c'est la fin de son monde en tout cas. Ce que tu dis pas, par contre, c'est ce que il prend l'identité du gars, parce que le gars a une forte somme d'argent liquide en fait aussi. Donc il prend son pognon et il décide lui d'effacer son existence. En fait, alors visiblement, c'est un très bon pianiste de bar. C'est un mec qui est un vrai, un type très talentueux, mais qui se considère sa vie comme ratée, quoi. C'est une sorte de droupie du film noir. Il fait toujours, il tire la tronche, il est toujours mal rasé, mal fringué. En tout cas, on voit bien qu'il a pas de thune, quoi. Qu'il est en galère et bon, c'est un loser, quoi, comme l'expression le veut. Et c'est un film qui est, pour moi, en plus, qui utilise très bien la voix off. Il y a une voix off aussi qui est très, très bien utilisée. Et qui est... Il y a un truc qui est passionnant, qui avait fait remarquer, alors, je crois, pour rendre à César ce qui est à César, Noël Simsolo, dans une de ses critiques, il expliquait qu'en fait, il y a des changements de lumière et de son dans les mêmes plans qui font que tout ce qui n'est pas dans la tête d'Al Roberts, en fait c'est un film qui se passe dans la tête d'Al Roberts, on ne l'a pas dit parce que c'est lui qui raconte, et tout ce qui n'est pas dans sa tête disparaît de l'écran ou disparaît du sonore. Parce que quand on raconte quelque chose, on fait des choix. Et il y a les choix d'Al Roberts. Bon, Al Roberts, c'est le roi des mauvais choix. Pour les plus anciens, c'est le Roger Jiquel du film noir. Voilà. Mais c'est assez incroyable. Et la composition d'Anne Savage, dont tu parlais tout à l'heure, qui fait cette harpie, là, cette femme terrible, c'est Eddie Muller. Eddie Muller, qui est un grand spécialiste du film noir, avait écrit « Elle mérite une suite de luxe au Panthéon Hôtel, l'établissement qui abrite les personnages que vous n'oublierez jamais. » Je trouve que c'est exactement ça. C'est difficile d'oublier Anne Savage une fois qu'on l'a vue dans le film, parce que le personnage le plus marquant du film, c'est elle, quoi. Voilà. Donc, petit budget ne veut pas dire qu'on n'a pas face à soi une petite perle de série B. C'est exactement le cas avec ce Détour de 1945 signé Edgar J. Ulmer et disponible chez Elephant Film.
I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone you know that I'm on your mind each place you go. They can't believe that you're in love with me. I have always placed you far above me. I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me.
Don't kill me, Daddy boy, don't!
What's going on down there? Were those shots?
You'd better call the police. There's been a murder.
It's bad enough to be alone in a big city with no place to go. But as soon as the newspapers hit the streets and the killer finds out he didn't get your husband, there'll be guys looking for him with guns.
Don't scream.
You're coming out or going in?
Are you the police?
Smile when you say that. I'm a reporter.
Oh, a newspaper man.
Are you just going to leave me dangling here?
Anymore, where's your husband, Mrs. Johnson?
I don't know.
Did he see the killer?
I don't know.
Should we dance?
Why don't you drop dead?
I
Je vais rester chez Elephant Film. Je vais rester avec Eddie Muller, hein, dont je vous parlais à l'instant, qui est l'auteur d'un livre de référence qui s'appelle Dark City, le monde perdu du film noir, qui est sorti en France. Un petit livre qui s'appelle Clairac Édition, je crois, quelque chose comme ça, mais qui est vraiment un livre, surtout pour les anglo-saxons, pour les américains, un livre référence sur le sujet. Et c'est grâce à lui, c'est pour ça que je parle d'Eddie Muller, c'est grâce à lui qu'on a pu récupérer certainement la dernière copie existante de Woman on the Run, alias Dans l'ombre de San Francisco, donc, qui sort là chez Elephant Film, qui est un film de 1950, qui est un film réalisé par Norman Foster, avec dans le rôle principal Anne Sheridan. Parce qu'en plus, c'est un film qui a la particularité, alors le titre français l'élude complètement, Dans l'ombre de San Francisco, mais en fait, c'est un film dont le personnage central est une femme, et dont on suit le périple tout le long du film. Voilà. Donc, titre plus parlant, titre original, Woman on the Run. Et en fait, il y a. Alors c'est pour ça que le film aussi, pas forcément techniquement le plus beau, c'est pas la plus belle copie que vous allez voir dans tout ce qui est édité là, dans tout ce qu'on parle aujourd'hui, ce dont on parle, pardon, aujourd'hui. Mais c'est normal, c'est la dernière copie, elle est dans l'état où elle a été retravaillée du mieux possible. Mais c'est Eddie Muller avec une de ses collaboratrices à l'American Cinematheque, elle s'appelle Gwen Deglise. C'est grâce à eux qu'une copie, la seule copie physique à ce jour, a été retrouvée pour être diffusée dans un festival qui s'appelle Noir City à San Francisco en 2003. Et c'est cette copie qui a donné lieu tout d'abord à l'édition Whiteside, il y a quelques années, et aujourd'hui à ce très beau Blu-ray chez Elephant Film. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un type au départ. L'introduction est absolument stupéfiante et frappante. Franck, c'est un peintre raté, en fait, enfin un peintre qui ne rencontre pas le succès escompté. Et il est à San Francisco, il promène son chien et tout à coup va être témoin d'un meurtre. Et ce qui est génial, c'est qu'on, grâce à un détail, je vous révélerai pas, mais on sait tout de suite qui est le meurtrier, en fait. On le sait tout de suite. C'est-à-dire, on prend le principe hitchcockien de montrer la menace au spectateur. On sait qui va être la menace pendant tout le film. Voilà. Et Franck est témoin du meurtre, il voit le tueur, il comprend que c'est des gens du milieu, qu'il est condamné en fait, hein, que ce tueur va forcément le retrouver, va forcément le tuer. Lui, c'est un monsieur tout le monde. Il décide de disparaître. Donc la police, évidemment, se met à le suspecter. Hein, voilà. Ils vont frapper à la porte de sa femme, interprétée magnifiquement par Anne Sheridan, qui s'appelle donc Eleanor, sa femme. Ils vont frapper à sa porte, puis ils disent, voilà, votre mari, certainement, c'est le tueur, machin, tout ça. Bon, dis non, il ferait pas de mal à une mouche, c'est pas le tueur. Bon, ils vont un peu la harceler, tout ça, puis elle vous dit, vous savez... Puis ils lui demandent de raconter des trucs. Oui, vous racontez quoi, vous savez, notre couple bas de l'aile, on est plutôt devenus des colocataires qu'un vrai couple, quoi. Voilà. Et c'est là que le film est assez passionnant, en fait. En fait, elle va aller à la recherche de son mari parce qu'elle va comprendre qu'il est menacé. Et en allant à la recherche de son mari, en faisant sa propre enquête, durant laquelle elle va croiser ce tueur, évidemment, sinon c'est pas drôle, qui va même s'associer avec elle pour faire l'enquête. Enfin, voilà, c'est tout, parce qu'il a du charme, parce qu'il est, c'est une personnalité brillante, il est très charismatique, contrairement à son mari qui est très effacé d'ailleurs. Elle va découvrir plein de choses sur son mari. Elle va découvrir que son mari a une maladie rare, une maladie du cœur. Elle va découvrir que son mari l'aime beaucoup. Et tout au long de ce périple, elle va trouver des indices. Et c'est une très belle idée de cinéma. À partir des indices qu'elle va trouver et des éléments qu'elle va avoir, ça peut être des éléments de décor, ça peut être la signature d'une toile, ça peut être une rencontre avec un taulier de bistrot qui se rappelle de son mari. Elle va comprendre que son mari l'aime toujours beaucoup, en fait, et leur couple va se reconstruire à distance. C'est une très belle idée de cinéma, jusqu'à une confrontation finale où, effectivement, là, il y a le triangle. Le triangle, on va pas dire amoureux, même s'il lui fait du charme, ce tueur, mais le triangle constitué de ces trois personnages qui va se retrouver dans un décor un peu particulier, puisque toujours en appliquant les meilleures règles de la série B du cinéma suspense hitchcockien, il va se servir d'un manège de foire pour montrer cette femme impuissante à sauver son mari. Voilà. Enfin, en tout cas, je ne vous dis pas le final, hein, parce qu'évidemment, je ne vais pas vous révéler la fin du film. Un peu à l'exemple du film précédent, c'est typique de ces films sans moyens et qui, grâce à l'inventivité du metteur en scène, parce que les mecs ont du métier quand même, hein, enfin, moi je trouve ça fascinant de voir à quel point le storytelling a contaminé le cinéma aujourd'hui et on est obligé de vous expliquer plein de trucs dans un film. On vous décrit la scène qui se passe à l'écran, ça et tout, alors que le film noir, dont quand même les codes sont d'utiliser la voix off et tout, mais en fait, les metteurs en scène maîtrisaient tellement l'image. Bon, beaucoup avaient connu le muet aussi, tout ça, mais maîtrisent tellement le langage du cinéma et de la mise en scène qu'en fin de compte, on arrive à dire très peu de choses avec une économie de moyens et de plans. C'est assez fascinant. Et là, bah, évidemment, on sent bien il a aussi un très bon... Norman Foster, il a sous la main un très grand chef opérateur, hein, puisqu'il a le chef opérateur qui a travaillé avec Samuel Fuller, Michael Curtis, Fritz Lang. Donc, pas de la gnognotte, hein, ce chef opérateur, c'est Al Moore. Et donc, avec Al Moore, il compose toute une série de cadres alambiqués, de plans, il change tout le temps les valeurs de plans, utilisant à bon escient les ombres, la contre-plongée, c'est vraiment un modèle de mise en scène. Et on est vraiment dans cette école de réalisateurs, comme on parlait à l'instant de Edgar J. Ulmer, de Potiker, dont on parlera tout à l'heure, de Siodmak. Des gens qui, avec des tout petits budgets, arrivent à vous faire des films complètement captivants, fascinants, où tout passe par la mise en scène. Donc vous l'aurez compris, en plus d'être un étonnant film sur l'amour, sur un couple, presque touchant par instant. C'est un film noir qui a un très beau portrait de femme et qui, en plus, est un film, c'est ça toute l'inventivité de la série B de l'époque, qui invente quasiment un personnage, enfin une figure qui inverse les rôles et qui invente un personnage qu'on ne voit pas dans d'autres films noirs. Dans tous les films noirs, on voit une femme fatale, on a un homme fatal. Puisque c'est lui qui va arriver, qui va s'immiscer entre le couple et tout ça, et qui va essayer de séduire la femme, alors que d'habitude, c'est plutôt la femme qui est maléfique et la femme fatale. Là, c'est la femme qui représente, entre guillemets, le personnage positif, et lui qui représente, pas entre guillemets, par contre, lui, le personnage négatif. Et bon, voilà, il y a plein d'inventivité, c'est plus ça. Par moments, c'est drôle, c'est c'est chouette. Bon, c'est chouette. Qu'est-ce que je vous dise de plus ? Un très bon film, ça s'appelle Dans l'ombre de San Francisco. C'est un film de Norman Foster et c'est disponible chez Elephant Film. Six bridges to cross. Which one is the right one? I know my love waits for me, and I ask which one shall it be? Six bridges to cross, each one seems the right one, and yet I know I must choose. For this love I dare not lose. Send me a star, a heavenly light, to help me find the way. Wherever you are, let me be right. I open my heart and I pray. Six bridges to cross. One bridge is the right one. One dream alone can come true. Let me cross the bridge that leads to you. Send me a star, a heavenly light, to help me find the way.
open my heart and I pray. Six bridges to cross.
Vous écoutez Culture Prohibée.
One bridge is the right one. One dream alone can come true. Let me cross the bridge that leads to you.
Autre film très inventif, autre film sorti chez Elephant Film. Six Bridges to Cross, La police était au rendez-vous de Joseph Pevney, avec un tout jeune Tony Curtis, avec aussi Sal Mineo d'ailleurs, dans le rôle de Tony Curtis jeune. Sal Mineo, c'est un chouette acteur aussi, avec Julie Adams, qui évidemment a marqué tous les érotomanes cinéphiles, puisque c'est elle, qui la belle nymphe qui nage et qui rend fou amoureux la créature du lac noir dans L'étrange créature du lac noir de Jack Arnold, et qui nous raconte, mon cher Damien, un sujet qui est assez original, puisque c'est un sujet aujourd'hui qui fait encore la une des journaux sur des flics qui ont des relations toxiques avec leur indic et qui se met... Ça a occasionné même des démissions de grands flics. Voilà. Et ça raconte la relation entre un flic et un voyou sympathique, charmeur, Tony Curtis, hein, génial hein, dans le film, et un flic droit et tout ça, mais Tony Curtis va devenir son indic, et avec le temps, ils vont garder des liens d'amitié. Mais c'est une histoire d'amitié un peu encombrante, et voilà, et je n'en dis pas plus, mon cher Damien, mais c'est là aussi un film noir que moi, je ne connaissais pas, que j'ai découvert, et qui est, une belle réussite de Joseph Pevney.
On était deux à pas le connaître au final, et oui, c'est une très belle découverte. Donc le titre français, c'est La police est au rendez-vous, mais je préfère le titre anglais, Six Bridges to Cross, qui est en fait... certains liens, le film est en noir et blanc. En fait, le film s'ouvre sur une musique que j'aime beaucoup, qui représente bien la thématique du film, qui s'appelle justement Six Bridges to Cross de Sammy Davis Jr. Et comme tu l'as expliqué, en fait, le film commence avec, du coup, pas Tony Curtis, mais son personnage Jerry Florea, qui est tout jeune, qui a son petit gang et tout, et qui, lors d'un braquage, en fait, va se faire tirer dessus par un policier, qui va se faire gronder par ses supérieurs parce que ça va avoir un impact dans la presse. Le fait qu'un policier ait tiré sur un enfant, et à travers cet accident, ils vont commencer justement à nouer une relation.
Ce que tu n'as pas dit, Damien, c'est que ouais, quand il se fait tirer dessus, le personnage de Jerry Florea, il devient, en fait, il devient stérile. Ça va créer quand même une relation particulière entre les deux personnages.
Et donc, c'est un film qui avance petit à petit dans le temps, et c'est ce qui le rend intéressant. C'est-à-dire que le policier se rend compte, le policier pense qu'il peut le faire un peu changer, mais lui, il continue son truc, et du coup, il devient son indic. Un peu plus tard, pareil, il sort, il reste proche, sauf qu'il continue à faire ses mauvais coups. Et en fait, ça revient à chaque fois. À chaque fois qu'il sort de prison, il est en mode, c'est bon... J'ai fini, et en dépit de ses dires, il continue ses mauvais coups, et l'histoire progresse dans le temps entre l'amendement et le vol du héros jusqu'à un amendement final, ou alors est-ce une autre stratégie pour un nouveau cambriolage. C'est un mini suspense, et j'adore Tony Curtis dans ce film, parce que j'adore vraiment son visage, et son rôle de voleur lui va à perfection, parce qu'il a ce visage à la fois angélique et maléfique, donc on a envie qu'il devienne gentil, et en même temps il a toujours ce petit sourire machiavélique qui est à part. Il y a des trucs qui sont très bien dans le film, comme le costume des bandits que j'aime beaucoup. Jérôme, on en a parlé, on n'a pas vraiment la même conception, mais en fait ce sont des voleurs avec des cagoules, des masques tout blancs qui recouvrent leur visage, et moi ça me fait penser au masque de Rorschach dans Watchmen, mais sans les taches. Et le point fort du film, c'est vraiment cette relation très floue entre le voleur et le policier, qui, on sent qu'ils ont envie d'être proches, mais qu'en même temps il y a une distance qui est mise, parce que le fait qu'il ait commis plusieurs vols, ça empêche le policier finalement d'avoir totalement confiance en lui, et le voleur a ce côté
bah, pas forcément d'être gentil, mais de vouloir mettre, entre, comme dit l'expression, à l'abri ses proches, et d'être obligé de tomber là-dedans. Et le film se termine sur exactement ce que disait la musique d'intro, qui, du coup, je vous donne les paroles traduites. 6 ponts à traverser, les 6 semblent bons, mais un seul doit être pris. 6 points à prendre, mais un seul est le bon. Et pour savoir si Tony Curtis a pris le bon film, bah, il faudra regarder La police est au rendez-vous.
Tu as évoqué effectivement cette scène de casse qui est très particulière, parce qu'en plus elle est presque muette, elle a une aura particulière, effectivement ces personnages avec ces masques blancs, pour moi c'est plutôt, on en avait parlé en antenne, c'est plutôt 6 fois l'assassin de 6 femmes pour l'assassin, où ils sont 5 je crois, 5 fois l'assassin de 6 femmes pour l'assassin qui fait un braquage, mais peu importe, c'est pour donner une image visuelle du visage des braqueurs, mais il y a... Ce qui, à un moment, tu dis, on aimerait bien qu'il devienne gentil. Il est gentil. C'est ça, en fait, le truc qui est passionnant dans le film, c'est que le personnage, il n'est pas manichéen. Tony Curtis, il est sympa. Mais c'est un voyou. Donc, c'est juste un, c'est son moyen de subvenir à ses besoins, c'est de faire des casses, c'est d'être un voyou. Mais au fond, c'est un gars gentil. C'est un gars gentil qui, à un moment, il décide de ne pas témoigner contre un de ses potes qui a fait un détournement de mineur. Il est accusé à sa place, il va en maison de redressement à sa place parce qu'il a un code d'honneur. Donc c'est un type qui a des vraies convictions. Et puis, comme il ne peut pas avoir d'enfant, parce que c'est là qu'il y a cette relation qui joue très particulière. Il veut croire à sa réhabilitation parce qu'à un moment, il se marie avec une femme tout à fait respectable au moment où il prépare ce fameux casse-là. Et nous, on veut croire aussi qu'il se marie. Et bon, on sait très bien que ce n'est pas possible parce qu'il reste encore une demi-heure de film. On sait très bien que ça ne va pas bien se finir, c'est un film noir. Mais on veut aussi croire à sa réhabilitation parce qu'il ne fait pas que rester un voyou. Il devient le number one. Il devient le saint patron des voyous. À un moment du film, il est très fort. Il est supérieurement intelligent. D'ailleurs, l'arnaque aux courses qu'il montre, c'est un peu comme ce qui s'était passé avec le film de Michael Mann, Heat, qui avait été repris par des braqueurs, dont le fameux Redouane Faïd, le braqueur de Craig, qui a écrit un bouquin, puis qui a replongé après, qui a fait une évasion spectaculaire et tout ça. Et en fait, l'arnaque qu'il montre là pour... pigeonner les mecs qui parient aux courses, elle est plus possible aujourd'hui avec les moyens de communication d'aujourd'hui, mais à l'époque, elle était carrément possible. C'est une idée de génie, en fait, hein, qu'il a pour se faire du fric. Donc, c'est un type qui a des idées de génie, c'est un type... Et même le dernier casse qui monte, c'est quasiment le crime parfait. Enfin, et c'est, avec les moyens qu'avait la police à l'époque, il est quasiment impossible de retrouver les participants au casse. Voilà. Donc, franchement, c'est vraiment, là, c'est pareil, c'est la très, très bonne surprise. Et puis, il y a aussi un élément qui est très intéressant dans le film, c'est que Jerry Florea, en fait, son comportement, son attitude, si on regarde bien le film, c'est le seul Italo-Américain. Il est entièrement entouré d'Irlandais. C'est tous des Irlandais. Ils s'appellent tous Gallagher. Enfin, ils ont tous des noms d'Irlandais. Le flic s'appelle Gallagher, d'ailleurs, je crois. C'est tous des Irlandais. Il vit au milieu d'Irlandais parce qu'il y a beaucoup d'Irlandais dans la communauté irlandaise qui vivent dans les quartiers malfamés de l'époque. Et il y a beaucoup de flics irlandais. Bon, ça, on le sait, c'est dans l'histoire américaine, c'est très connu. Et puis, c'est un fait, c'est une réalité. Et du coup, son comportement, ça... Sa force de caractère et aussi son côté très, où il peut être très violent, il peut être ange et démon et tout, peut s'expliquer aussi au fait qu'on peut comprendre qu'il a pu aussi être victime, être ostracisé de par ses origines. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ça s'appelle La police était au rendez-vous. Tony Curtis écrase de son talent le film, parce que le film tient aussi beaucoup à sa composition. Un autre acteur aurait peut-être pas réussi à faire ça. C'est signé Joseph Pevney, sans doute un des meilleurs films de Joseph Pevney, et c'est disponible chez Elephant Film. Vous écoutez Culture Prohibée. On va maintenant parler d'un film sorti chez Rimini Éditions. Rimini Éditions qui, très régulièrement, sort aussi des films noirs et surtout, qui a une vraie politique éditoriale très centrée sur les réalisateurs, les auteurs. Et ça fait quelques années maintenant que, la maison d'édition de Jean-Pierre Vasseur nous permet de participe à la réhabilitation d'un réalisateur que nous on adore mais qui n'est pas encore complètement reconnu à son juste valeur, c'est Robert Wise. Et là il sort un film qui s'appelle La ville captive, The Captive City, qui est donc disponible chez Rimini Édition, qui est un film qui est une démonstration, toujours pareil hein, pur film noir, maîtrise totale de la mise en scène. Bon, c'est Robert Wise. Alors, on ne peut pas, à ce moment-là, dire que Robert Wise, même si là, c'est une série B, c'est un petit budget et tout ça, mais on ne peut pas dire que Robert Wise, à l'époque, est un inconnu. Voilà, il y a eu Le jour où la Terre s'arrêta, qui venait d'être fait. Il a eu un énorme succès au box-office. Enfin, c'est un réalisateur important. Voilà. Et, mais qui aime la série B. Donc, il décide à l'époque de revenir vers une série B, de faire un petit film pour se détendre, un film un film de major compagnie, pas un film écrasant par sa logistique et tout ça, et de faire plutôt un petit film, veut pas dire un mauvais film, hein, qui va être donc La ville enchaînée, qui là sort sous le titre La ville captive, mais qui s'est aussi appelée la ville enchaînée. Et qui raconte l'histoire suivante. On voit Jim Austin et sa femme qui sont poursuivis, qui se réfugient dans un commissariat. Et il raconte, alors c'est adapté d'une histoire vraie, hein, le personnage existe réellement. Il raconte à ses policiers qui sont là qu'il est, lui, le vice-patron d'un journal local. En fait, ils sont deux, un pote qui s'occupe de la partie technique, hein, la partie impression, et lui, il s'occupe de la partie rédactionnelle. C'est le rédac-chef, quoi, voilà. Mais ils sont deux, le journal leur appartient. Et puis, un jour, il est amené à enquêter sur de la corruption, et il découvre que la ville... toute la ville est corrompue, que les personnages les plus importants de la ville sont corrompus, que la police est corrompue. Sa vie, il se retrouve en danger de mort, lui, sa femme. Et à partir de là, donc il dit ça aux policiers qui le reçoivent. Et policier, on sent qu'il est qu'il le croit moyennement. Et tout à coup, il dit écoutez, il regarde par la fenêtre, le policier, il voit qu'il y a des voitures, enfin, il voit que c'est pas clair. Lui, il dit, écoutez, je vais enregistrer ma confession, c'est comme ça, si je meurs, au moins, il restera une trace de tout ça. Et évidemment, la confession, c'est le flashback. Le film est construit en flashback. Et donc, on revient et on revit toute l'histoire, tout ce qu'il a vécu, y compris, donc, film super parano, parce que du coup, film où le mec se met à se méfier de tout le monde, son stagiaire se fait agresser, les flics le harcèlent, lui collant des contraventions pour rien, enfin, le surveillant sans cesse, sa ligne est surveillée, il est... Enfin, voilà. Et... on a une démonstration de maîtrise de la mise en scène, de la narration, du langage du cinéma. C'est une leçon de cinéma, ce petit film. C'est pas le meilleur film de Robert Wise. C'est pas un chef-d'œuvre oublié. Mais c'est un film d'une efficacité redoutable qui, en plus, met en avant un aspect vériste. Donc, il y a un petit côté documentaire, en fait. Il y a un côté docudrama qui vient très en amont de ce qui sera plus tard. Et qui, en plus, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit comment bossaient les journalistes à l'époque. Mais tout l'aspect technique, avec aussi bien l'impression, comment on faisait. Et puis même lui, comment il bosse, comment il fait bosser sa femme chez lui, comment il galère au niveau thune. Enfin, il y a tout cet aspect-là du métier de journaliste. Et comment il mène une enquête, comment il se plante, comment il réussit, comment il trace des pistes. Et puis comment la bonne société va faire pression sur lui pour que, justement, il arrête son enquête juste à temps. Et c'est un film, alors, quand même plus important qu'il n'y paraît, puisque on a même, à la fin du film, l'apparition d'un véritable sénateur, hein, Estes Kefauver, qui était le responsable de la commission au Sénat américain sur la corruption. On appelait ça la commission sénatoriale sur le crime organisé. Et donc, évidemment, à la fin, on croit, et puis tout s'arrange pour lui, puisque c'est une histoire vraie, de toute façon. Donc, film hyper prenant, très intelligemment bien construit, très bien interprété par un John Forsythe qui est très bien en homme juste. C'est injuste, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et moi, je trouve que c'est pareil, une très bonne surprise. On vous parle que de très bons films aujourd'hui, hein, jusqu'ici. Donc, vous êtes gâtés. Et donc, ça s'appelle La Ville Captive. C'est réalisé par Robert Wise. Et c'est disponible chez Rimini Éditions. Je me tourne vers Thomas. Thomas, l'homme qui aime les westerns et qui aime Bud Boetticher, donc fatalement, puisqu'il aime les westerns. Et Thomas, il paraît que tu es au courant, alors c'est pareil, c'est sorti chez Rimini Éditions, il paraît qu'il y aurait un tueur qui se serait évadé. Donc le tueur s'est évadé.
Oui, le tueur s'est évadé. Donc un film noir de Bud Boetticher, donc comme tu viens de le dire, plus célèbre pour ses westerns. Et aussi des films de tauromachie, je ne savais pas qu'il avait fait des films de tauromachie. Et donc, Le tueur s'est évadé, c'est un petit film noir. On peut dire ça, c'est un petit film noir. Hein. Qui commence par un hold-up, dans une banque, où on est surtout centré sur le caissier. Donc le caissier, c'est le client auquel qu'il sert, en fait, c'est un ancien compagnon de l'armée qui se fout un peu de sa gueule. Hein. On peut dire ça comme ça. On devine que le bonhomme, c'était un peu le souffre-douleur de la section, que c'était un peu celui dont on aimait bien se moquer. Donc le hold-up a lieu après enquête de la police qui interroge des témoins la police dont un inspecteur est incarné par Joseph Cotten. Donc interrogation des témoins, enquête, et au cours de l'enquête il découvre que ce caissier est en fait un complice. Donc ils vont pour l'arrêter. Échange de coups de feu, il pénètre dans l'appartement du caissier. Et là, Joseph Cotten, il voit une silhouette, il cherche pas à comprendre. Et en fait, il tue pas du tout le caissier, mais sa compagne. Et là, pour le caissier, c'est la fin du monde parce qu'on demande, on devine que c'est un pauvre type, quoi, que c'est un gars qui a jamais eu de chance dans la vie, puis que ce hold-up lui aurait peut-être permis de vivre une autre vie avec cette femme ailleurs, etc. Le meurtre de sa femme le détruit complètement, et ultime humiliation, le procès, où bien évidemment il écope de plusieurs années de prison, et là il devient complètement quelqu'un d'autre. Ce qu'il veut, c'est se venger. Alors donc, Bud Boetticher, pour ceux qui connaissent, hein, la vengeance est un de ses thèmes favoris, qui revient dans presque tous ses westerns.
Il venait de faire Sept hommes à abattre avec Randolph Scott, qui est certainement un des meilleurs westerns de vengeance de tous les temps. Hein, et il les enchaîne. Là.
Ah, celui-là, je ne l'ai pas vu, malheureusement. Mais je retiens, il faut que je rattrape cette lacune. Et donc, mais cette fois, la vengeance, ce n'est pas le héros. C'est pas le gentil qui est animé par ce désir de vengeance, c'est le méchant. Mais en fait, le méchant, finalement, on a plus d'empathie pour lui que pour Joseph Cotten, qui lui, visiblement, n'est pas embêté d'avoir flingué une innocente. Hein. Bud Boetticher s'intéresse plus à ce personnage qui est plus pathétique qu'autre chose. Et il y a plusieurs séquences qui sont vraiment bien, parce qu'on sent qu'il se désintéresse du personnage de Joseph Cotten, qui est un flic tout à fait fat, inintéressant. Donc on suit ce personnage, on suit son évasion, et là il y a plusieurs séquences vraiment bien, l'évasion elle est vraiment bien. Et la mise en scène de Bud Boetticher, à un moment il y a un personnage qui est inspecté par les flics, parce que les flics ils cherchent justement l'évader. Et il y a un petit indice qui nous dit que c'est lui, quoi, alors qu'on ne le reconnaît pas forcément sur le coup, parce que en fait c'est un personnage qui porte des lunettes, puis il est vraiment des culs de bouteille. Hein, et donc il y a un indice qui nous dit qu'en fait c'est lui, que les flics ils l'ont laissé passer. Et donc en fait Cette histoire de vengeance, bien sûr, il y a ce personnage qui veut se venger de Joseph Cotten en voulant tuer la compagne de Joseph Cotten. Mais il y a aussi ce côté revanche sur la vie, parce qu'à un moment, dans sa fuite, en allant se dirigeant vers l'habitation de la compagne de Joseph Cotten, il se réfugie dans la maison, parce qu'il savait où il était en ayant son adresse quand il travaillait à la banque. Il se réfugie dans la maison de son ancien compagnon de l'armée. Et là, il y a une scène qui est vraiment pas mal aussi, qui est vraiment bien. Et là, on sent le personnage qui, au début, était plutôt effacé, qui savait pas où se mettre, en fait. Et là, on sent le personnage qui a vraiment vrillé, qui est devenu beaucoup plus froid, et on sent que là il prend sa revanche sur la vie des humiliations qu'il a subies tout au cours de son armée ou autre, quoi. Et le fait d'avoir perdu cette femme qui lui avait rendu, il le dit, hein, cette femme lui donnait une raison de vivre, etc., qui lui avait donné une raison de vivre, ça l'a fait complètement vriller. Et c'est là le film, et c'est en ça que le film est très intéressant, ce portrait de ce tueur, de ce personnage, parce que bon, le film a des faiblesses. Il y a des moments où c'est un peu flottant, notamment quand il s'attache à raconter les péripéties des flics, etc. Même s'il y a quelques scènes avec le personnage féminin, par exemple, il y a une scène vraiment pas mal dans le bus où elle croit qu'elle est suivie dans le bus, elle regarde autour d'elle, il y a vraiment un truc très parano.
La femme de Joseph Cotten intéresse beaucoup plus Bud Boetticher que Joseph Cotten. C'est Rhonda Fleming, qui est une rousse incendiaire, hein, qui est une très belle femme, et elle a un rôle beaucoup plus consistant que celui de Joseph Cotten. Et en plus, c'est elle la cible du tueur, le tueur qui va... dont Michael Caine lui a tout piqué pour s'habiller, d'ailleurs, à la fin de Pulsion. Mais j'en révèle peut-être un peu trop. Mais bon, sans doute un peu, quand on voit le film. Mais oui, le film a des faiblesses. Bon, le final est un peu expédié, tout ça. Mais tu as raison, Thomas. Ce tueur campé par Wendell Corey. Alors, Wendell Corey, on l'a un peu oublié. Mais c'est un super acteur. Il sortait à l'époque du Grand Couteau d'Aldrich, de Fenêtre sur cour d'Hitchcock, et on y croit, quoi. C'est-à-dire que le type, il est falot, il l'appelle Foggy, le méprise au début quand il le voit à la banque. Il est falot, il a un physique passe-partout. Mais le truc, c'est que quand il devient un tueur digne du pire psychopathe, ce physique passe-partout, on a l'impression qu'il se transforme physiquement.
Son regard se transforme.
Ouais, c'est un super acteur, en fait. Et même Joseph Cotten, qui est un très bon acteur, hein, vous l'avez vu dans L'ombre d'un doute, Hitchcock aussi, il est écrasé par je pense que Boetticher, en fait, est passionné par son acteur, et comme il est passionné par Rhonda Fleming, et qu'il préfère 100 fois s'occuper d'eux que de s'occuper de Cotten, quoi.
Après, bon, le film a des faiblesses, hein. c'est une série B, hein, petit budget, et ça se sent notamment vers la fin, qui est effectivement un petit peu expédiée, et qui n'est pas à la hauteur du personnage qu'il décrit pendant tout le long du film.
Après, c'est un très bon film, hein, quand même, hein. C'est très très bon, c'est quand même le haut du panier, surtout qu'on est en 56, c'est la queue de comète du film noir, et c'est quand même un excellent film qu'on vous recommande. La photo est de Lucien Ballard aussi, il y a quand même beaucoup de talents qui sont réunis dans ce film, et comme tu l'as dit, rien que pour cette idée géniale de faire que le vengeur n'est pas du bon côté du manche, c'est quand même une idée assez géniale, voilà. Puisqu'en plus, là où il est fort, Boetticher, c'est qu'on prend parti pour le vengeur. Avant qu'il tue son copain, même si on peut à la limite encore prendre parti pour lui, parce que son copain le méprise quelque part, mais avant qu'il tue son copain, bon, il tue des innocents, c'est évadant et tout quand même, bon, c'est pas très sympathique, la scène est géniale, hein. Mais on a de l'empathie pour lui, comme tu le disais. C'est un pauvre type, et sa femme, sublimement belle, on imagine bien que c'était le soleil de sa vie, qui se fait tuer bêtement, hein, par le flic, une bavure. Le flic n'est jamais poursuivi, en plus, pour ça. Il n'a aucun regret. Voilà. Après, on est chez Boetticher, c'est sec, c'est nerveux, il n'y a pas de temps pour les sentiments, quoi. Et du coup, ce personnage en devient d'autant plus captivant, parce que ce personnage, il est touchant. En fait, il est touchant. C'est un psychopathe, mais il est touchant.
Mais il y a un côté revanche sociale, hein, par rapport à ce personnage. Et puis la façon dont il décrit les flics, tu disais que la mise en scène de Boetticher, il n'y a pas de sentiment, etc. Mais les flics, justement, ce sont des purs fonctionnaires qui font un boulot sans affect, sans rien. Il est décrit tel quel, quoi.
Vous écoutez Culture Prohibée. Alors on va quitter Le Tueur s'est évadé, donc qui est disponible chez Rimini Édition, qu'on vous recommande fortement. C'est l'émission des bons films. Hein. Là, on a été déçus par aucun film. Il n'y a que du haut niveau. Hein, voilà. On va terminer sur un film plus récent qui emprunte au film noir, qui est un film noir contemporain, en fait, on va dire comme ça, où là, le flic n'est pas un simple fonctionnaire. Hein. Le flic, il se pose des questions. Le flic incarné par Willem Dafoe, le génial Willem Dafoe, pléonasme, va se révéler d'une ambiguïté et impossible à suivre et à comprendre, d'ailleurs, dans ses motivations par moment, tout au long de ce film retors, qui s'appelle Sable Mortel, White Sands, Sable Blanc, d'ailleurs, qui a un titre qui correspond bien mieux à ce qui se passe dans le film que le titre français. Pourquoi avoir transformé Sable Blanc en Sable Mortel ? Voilà, enfin, ceux qui ont vu le film ou qui vont le voir me comprennent. C'est un film de Roger Donaldson. Roger Donaldson, il vient d'Australie. À l'époque, il est aux prémices d'une carrière hollywoodienne où il va cartonner, en fait. Il va faire du blockbuster, dont l'un des plus mémorables reste La Mutante, qui est un film de SF qui avait très, très bien marché à l'époque. Mais il va faire d'autres choses. Et là, il arrive aux États-Unis. Il en est au début de sa carrière. Roger Donaldson n'a pas encore fait de blockbuster. Et il fait ce film. Ce film qui voit donc Willem Dafoe être un shérif adjoint, un Ray Dolezal, et qui normalement devait être interprété par Kevin Costner d'ailleurs. Et ça a fini par être Willem Dafoe. J'aime beaucoup Kevin Costner, mais je pense que Willem Dafoe correspond bien plus au rôle que Kevin Costner, toute l'ambiguïté qu'il peut charrier. Et il va y avoir dans son comté, le comté de Torrance, au Nouveau-Mexique, où il ne se passe jamais rien, il va découvrir un homme au milieu du désert, en costard, qui semble s'être suicidé avec son revolver, qui a une mallette avec 500 000 dollars dedans. Et lui, il décide de mener l'enquête quand même, parce qu'il trouve que... Il n'arrive pas à se satisfaire de cette histoire de... Puis il y a 500 000 dollars aussi dans l'histoire, mais il n'arrive pas à se satisfaire de cette histoire. C'est un type rangé, avec une vie, une femme, tout ça, enfin bon... Il a une vie assez classique. Et il trouve un numéro de téléphone, en fait, après l'autopsie. Et il prend contact. Il y a une femme qui l'invite à le rejoindre. Enfin, une voix féminine qui l'invite à le rejoindre. Et il se fait passer pour le mort, en fait. Hein. Il se fait passer pour celui qui a été tué. Il se rend au rendez-vous. Un peu comme dans Détour. Hein. Il se fait passer pour un mort. Il se rend au rendez-vous. Et comme ça, il se dit qu'il va trouver la réponse à son énigme. Et ça va devenir un peu compliqué. Il va se retrouver face à tout plein de personnages, tous plus tordus les uns que les autres, parce que c'est un film très retors. Alors c'était la mode des films de John Dahl à l'époque. Hein. John Dahl qui a connu son heure de gloire et qui faisait des films, qui a rendu plein d'hommages aux films noirs. On avait parlé de Last Seduction dans l'émission, avec toujours des scénarios à tiroir comme ça, retors. Mais John Dahl maîtrisait très bien son sujet. Là, c'est un peu moins maîtrisé quand même. Et il se retrouve donc face à la fois à une femme fatale, campée par Marie-Elisabeth Mastrantonio, qui à l'époque est une actrice en plein boom, hein, qui est l'héroïne d'Abyss de Cameron, qui est une très bonne actrice, même si bon, on a un peu du mal à cerner les motivations de son personnage dans le film quand même. Mais il va y avoir aussi le FBI, la CIA, avec un agent corrompu génialement interprété par Samuel Jackson. Et puis il y a un marchand d'armes, un type un peu bizarre, là aussi interprété avec un talent fou et une ambiguïté qui le caractérise, hein, Mickey Rourke, hein, qui est là-dedans. Et tout cet imbroglio va donner, mon cher Thomas, un film noir avec qui va de rebondissement en rebondissement, dans un décor un peu singulier qui peut rappeler, alors toute proportion gardée, parce que le film de Michael Apted est excellent, Cœur de tonnerre, dans cet environnement écrasant de chaleur, avec cette esthétique si propre aux années 90. Et ça va donner, c'est un film néo-noir, mon cher Thomas, qui est quand même un film singulier, qui est un film un peu à part dans la production de l'époque.
Ce que je retiens surtout, c'est le personnage incarné par Willem Dafoe, qui est en fait Effectivement, elle a une petite vie rangée, assez conformiste, etc. C'est le policier de province qui voit là une affaire dans laquelle il peut éventuellement éclater, quoi. Et d'ailleurs, plusieurs fois dans le film, il fait des gaffes, et on lui renvoie le fait que ceux qui connaissent son véritable identité, parce qu'il y en a qui la connaissent, mais qui font même semblant de ne pas la connaître, en fait, il lui renvoie sans arrêt que c'est un plouc. C'est un plouc qui a mis le doigt dans une affaire qui est quand même un petit peu plus grosse que lui, que ce qu'il pourrait gérer. Moi, je trouve que c'est le plus intéressant dans le film. Donc, je fais un peu un lien avec le film précédent dont on parlait précédemment, là, où on parlait de revanche sociale. Et là, c'est un peu pareil. Là. Il y a un petit côté revanche sociale de la part du personnage incarné par Willem Dafoe, qui est génial. Hein. Parce que 6 ans auparavant, il joue dans Police Fédérale Los Angeles, un faux monnayeur froid, cynique. Et là, il joue un gars un peu naïf. Il est vraiment très bon.
Je souligne aussi que Samuel Jackson est fantastique. Hein, en Fief et Salopard, il est vraiment, vraiment excellent. Il y a des seconds rôles très bons aussi. Il y a Emmett Walsh, qui était à l'époque, qui est dégoulinant comme d'habitude, là, qui était...
Toujours des cyniques. Hein.
Ouais, il joue toujours des types comme ça qu'on avait... Bon, dont l'autre grand rôle, enfin surtout le grand rôle, c'est chez les frères Cohen, dans 100%. Hein. Et il y a aussi dans les seconds rôles, pour moi, Maura Tierney, qui a un tout petit rôle, mais elle crève l'écran. Elle n'est pas là longtemps à l'écran, mais elle crève vraiment l'écran. Enfin, on perçoit tout de suite. Alors, c'est plus une actrice qui a explosé dans les séries ou tout ça et tout qu'au cinéma, mais on perçoit tout de suite qu'elle a un potentiel d'actrice qui est pas dans la moyenne, qui est très au-dessus de la moyenne. Voilà. Et bon, au final, moi, je dirais que bon, bah, tout, c'est un bon néo-noir avec des personnages bien retors, une atmosphère singulière. Un film assez représentatif en fait de la production du début des années 90 où il y avait toute une frange de films comme ça néo-noir avant que dans le néo-noir, dans le film policier, il y a un certain Paul Verhoeven, parce qu'on est juste quelques temps avant quand le film est tourné, ne vienne y ajouter une pincée de sexe avec son Basic Instinct et qui vienne bouleverser le film policier de son époque. Donc on vous le recommande, hein, ça s'appelle Sable Mortel, c'est un film de Roger Donaldson et c'est disponible chez ESC. Une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.